Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Nous chantons ensemble la louange à ce Dieu donc qui nous appelle, avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret liturgique qui est au début du psautier français. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Éternel, c'est toi qui es Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, nous sommes la famille à qui tu as donné la vie. Je vous propose de poursuivre dans la louange avec le psaume 95 que vous trouverez donc dans le psautier français, la version B, la mélodie B. Réjouissons-nous au Seigneur, égayons-nous en son honneur, je vous propose de chanter les trois premières strophes donc de ce psaume 95b. Vous pouvez prendre place. Alors après avoir ainsi accueilli la présence de ce Dieu au milieu de nous, c'est très chaleureusement que je voudrais souhaiter la bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre foi ou vos doutes, c'est vraiment un service que nous nous rendons mutuellement d'être ensemble pour chercher ce qui est la source de la vie. Et vous avez un mérite particulier, bien sûr, en cette journée un peu spéciale d'élection, donc plutôt que d'être parti peut-être quelque part voter ou tenir un bureau de vote, eh bien vous avez choisi voilà, de prendre ce temps dans votre journée, dans ce week-end de mai. Alors, grand bienvenue à mon collègue, le pasteur Jean-Frédéric Patrinsky, qui est donc inspecteur ecclésiastique, c'est-à-dire pasteur de la région luthérienne de Paris, en fait. Donc, c'est pour nous une joie de pouvoir ainsi l'entendre, nous donner donc la prédication pour aujourd'hui. Et c'est vrai que pouvoir mettre ainsi de la fraternité, de la bonne entente entre différentes sensibilités chrétiennes, c'est une vraie force. Et puis, bienvenue en particulier à Charles Lescaille, donc, qui a demandé à être baptisé parmi nous ce matin, et bienvenue à sa fiancée, donc, qui est très engagée catholique. Donc là aussi, nous sommes vraiment en communion tout à fait profonde, bien sûr, avec le Christ, qui est la tête du corps que nous formons avec cette diversité des membres. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre selon le témoignage de l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. Et voici le second commandement qui lui est semblable, nous dit-il, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Face à cet idéal infini de l'amour du Christ, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son aide. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière d'Ambroise de Milan du IVe siècle. Viens, Seigneur, et cherche ton serviteur. Viens, bon berger, cherche la brebis épuisée, perdue. Viens vers moi que guette l'incursion des loups. Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi, porte-moi. Tu peux trouver celui que tu cherches, tu places sur tes épaules celui que tu trouves, et ce fardeau n'est pas pour toi une charge, mais une joie. Viens donc, Seigneur, chercher ta brebis, viens toi-même, et porte-moi. Toi qui es salutaire à ceux qui sont perdus, toi qui es le repos des fatigués, toi qui es vivifiant pour les mourants, viens, et il y aura le salut sur la terre et de la joie au ciel. Viens, bon berger. Voici ce que déclare l'Éternel à chacune et chacun d'entre nous. Je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il puisse changer de façon d'être et vivre. Et déjà maintenant, Dieu se penche vers nous en Christ et nous dit « Lève-toi et va, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. » Nous chantons notre reconnaissance.
Vous pouvez prendre place. Et puis j'accueille Charles. Donc c'est avec grande joie que nous vous accueillons. Vous êtes d'une famille protestante et même d'une famille protestante donc du plateau du Chambon-sur-Lignon, donc c'est quand même quelque chose. Mais nous le savons bien, c'est pas parce qu'on est d'une famille protestante qu'on est forcément protestant, qu'on est forcément chrétien. Parce qu'effectivement, le protestantisme et le christianisme, c'est d'abord et avant tout une foi, c'est pas simplement comme on serait corse, écossais ou limousin, c'est plus quelque chose voilà, qui nous anime et qu'on choisit. Effectivement, ce serait grave si en étant né protestant, de famille protestante, plus ou moins pasteurisée, eh bien, on soit pour autant protestants, parce que voilà, où serait la sincérité, où serait le cœur, où serait voilà, vraiment la foi. Et finalement, la foi, ça dépasse tout ça, bien sûr, et la preuve, finalement, c'est que c'est votre fiancée, très engagée dans l'Église catholique, Sybille, qui vous a donné, qui a éveillé en vous cette recherche de Dieu et de placer vraiment Dieu au cœur de votre vie, et du coup de demander le baptême, et à votre façon, à la façon protestante. Et ça met bien en valeur, je crois, ce que c'est que la foi, une réalité qui fait de nous, dans la diversité des membres, qui fait de nous un seul corps, et qui permet justement cette articulation de chacun, dans la, voilà, ce que chacun a de particulier, d'unique, peut-être aussi dans notre façon de chercher Dieu, et que cette diversité soit une vraie chance, soit une vraie richesse, et non pas une source de problèmes. Donc Charles, bravo pour cette démarche de foi, d'intelligence, de respect, de sincérité. Et puis merci pour l'honneur que vous nous faites d'avoir choisi notre paroisse pour demander le baptême et être là donc, ce matin. Pour nous, c'est un enrichissement, c'est une joie. Alors le baptême, c'est le signe de la grâce de Dieu, de son alliance avec chacune et avec chacun, au-delà des chapelles. Une alliance faite de confiance et d'espérance réciproque. Avant que vous le cherchiez, Dieu était déjà près de vous, à vous accompagner, à espérer en vous, à vous nourrir, à vous éclairer, et rien ne vous privera de cet amour tout au long de votre existence. Dieu est fidèle et vous pourrez compter dessus chaque jour. À ce Dieu qui vous dit « Tu es mon Fils bien-aimé », aujourd'hui, par votre foi, en réponse au baptême que vous allez recevoir, vous lui répondez « Tu es mon Dieu et mon Père que j'ai dans les cieux. » Nous prions Dieu. Ô Éternel notre Dieu, tu as donné ton esprit de lumière et de vie à Charles. Tu l'as accueilli dans ton alliance. Que ce baptême soit le signe de ses dons et qu'avec le Christ, il devienne jour après jour de plus en plus vivant, de plus en plus source de vie, rayonnant de foi, d'amour et d'espérance. Amen. Charles, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Charles, que Dieu vous bénisse et vous accompagne, qu'il vous sanctifie, qu'il vous accompagne sur le chemin de votre vie tout entière, qu'il l'éclaire de sa lumière pour vous rendre libre vous rendre libre et créatif. Il vous donnera une force et une joie, une paix que le monde ne peut donner. Il vous donnera un enthousiasme pour la vie et pour ceux qui vous entourent. Oui, Charles, Dieu vous bénit et il est fidèle. Amen. Alors, vous avez accepté de nous dire quelques mots sur votre parcours. Alors, je sais que ce n'est pas très facile. Donc, merci pour ce courage et merci parce que ça peut donner envie, ça peut motiver bien chacun d'entre nous à faire un pas de plus sur ce chemin de la vie.
Alors. Bonjour à tous et merci de m'accueillir ici.
Il faut le mettre vraiment sur le...
Voilà, juste ici.
Près de la bouche, oui.
Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Vous avez déjà beaucoup dit, mais je vais repréciser peut-être certaines choses.
Oui.
Je pense avoir toujours été intuitivement proche de Dieu et traditionnellement proche de l'Église réformée. Mais comme vous l'avez dit, je pense que j'avais besoin d'un coup de pouce pour entamer une démarche plus concrète et plus actuelle. Et c'est la démarche de foi qui m'amène aujourd'hui ici devant vous. Comme vous l'avez dit aussi, je suis issu d'une famille protestante. Et l'histoire de cette famille est liée depuis le XVIIe siècle au plateau du Vivarais-Lignon, que peut-être certains d'entre vous connaissent, entre Ardèche et Haute-Loire. Des terres protestantes, je crois, de la première heure de la Réforme. Et effectivement, comme vous l'avez dit aussi, ce n'est pas anodin dans ma démarche, je me sens témoin d'une culture religieuse et d'une histoire. J'ai aussi été baigné de spiritualité de mon enfance, avec un père féru d'histoire et une tante pasteur, ça vous ne l'aviez pas dit. Et il n'était pas rare que les discussions tournent autour de la Bible. Ils débattaient notamment des nuances, parfois subtiles pour l'enfant que j'étais alors, entre protestantisme et catholicisme. Et ce qui me semble être un clin d'œil symbolique et amusant aujourd'hui, c'est que ces liens entre ces deux familles du christianisme m'ont suivi et que ma fiancée est catholique, comme vous l'avez dit, et qu'elle a été un élément décisif de mon parcours jusqu'au baptême. Elle m'a convaincu de l'importance de vivre ma foi pleinement, au quotidien et avec l'appui d'une communauté. C'est pourquoi je suis très reconnaissant d'avoir été ici baptisé.
Alors merci pour ces mots qui voilà, disent un petit peu votre parcours. Et l'importance que peuvent avoir donc, les témoins autour de nous qui apportent, soit votre père, votre fiancé et d'autres, bien quelque chose qui nous enrichisse, qui nous permette d'avancer. Alors vous avez préparé une confession de foi qui dit votre conviction théologique, spirituelle, pour aujourd'hui. Et ça sera notre confession de foi pour ce matin. Donc je vous propose de vous lever pour vous associer du cœur à cette confession de foi que va nous donner Charles.
Je crois en Dieu comme une évidence intimidante et belle. Je crois en Dieu qui s'est fait chair et esprit par amour pour nous, ses enfants. Je crois en Dieu qui nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Je crois en Dieu qui donne une foi, une joie profonde et durable à ceux qui écoutent et suivent sa parole. Je crois en l'Esprit Saint, présence et sagesse de Dieu, qui nous guide et atteste que nous sommes ses enfants. Je crois en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui a fait de sa vie un exemple de morale et de justice pour les hommes, qui nous accompagne chaque jour, chaque heure, chaque instant, qui oppose aux rationalités froides l'amour et la confiance du cœur, et qui d'ailleurs nous rappelle « Quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en enfant n'y entrera pas ». Je crois que la véritable nature de l'homme, révélée par le Christ, est de faire le bien. Je crois que l'amour est l'unique chemin vers ce bien et que c'est par cet amour que nous touchons à la vie éternelle. Amen.
Un grand merci, Charles. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place. Je vous garde un peu. Oui. Charles, vous avez reçu donc le baptême, signe de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi. Nous vous recevons avec joie comme membre de l'Église universelle, donc il y a un E majuscule à Église, même si par oral ça s'entend moyennement, c'est-à-dire c'est la large communauté de tous ceux qui cherchent Dieu en Christ. Alors croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui car il est notre Sauveur et c'est chercher à le suivre car il est notre Seigneur. Avec le secours du Saint-Esprit, vous pourrez chercher à aimer Dieu de plus en plus, à aimer votre prochain, c'est-à-dire à discerner quel prochain vous fait partie de votre vocation pour que vous l'aidiez, que vous le serviez, sans oublier de vous aimer vous-même, sinon rien n'est possible non plus. Donc que le Saint-Esprit affermisse votre foi, vous accorde ses dons et vous les renouvelle de jour en jour. Nous prions. Notre Père, nous te remercions pour Charles, que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Bénis-le pleinement, ô Éternel, et bénis par lui les siens et tous ceux qu'il aura à cœur d'aider, de soutenir, d'accompagner. Aide-nous à nous-mêmes, jour après jour, dimanche après dimanche, année après année, à avoir l'intelligence, la réflexion, l'humilité de faire des pas en avant dans la confiance en toi, ainsi que dans le service mutuel les uns des autres. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Grand merci, Charles.
Amis, frères et sœurs, merci de m'accueillir dans votre paroisse, dans votre église, d'avoir la joie de prêcher l'évangile pour vous, pour moi, ici même en ce jour. Alors quelques explications quand même. Inspecteur ecclésiastique, voilà un terme bien barbare. C'est le brave, je ne sais pas s'il faut dire brave, Napoléon, qui, quand les luthériens sont allés le voir, alors qu'il organisait les églises, ont dit « nous avons des évêques ». Et Napoléon a dit « non, moi je ne veux connaître que des évêques catholiques romains. Alors, je vais vous trouver un autre nom ». Et il a traduit « épiscope » du grec en latin et ça a donné « inspecteur ecclésiastique ». C'est un terme bien barbare, mais... Voilà, ce qui veut dire que je suis évêque, mais pas au sens romain du terme. Je suis le pasteur des pasteurs, je suis aussi le garant de l'unité de mon église régionale, ici à Paris, mais l'inspection luthérienne de Paris, c'est aussi deux paroisses en province, à Lyon et à Nice. Et depuis la création de l'Église protestante unie de France, j'essaye, je conduis ces deux paroisses de province luthériennes à s'engager et à entrer dans les régions réformées dans lesquelles elles vivent, à savoir la région Centre-Alpes-Rhône et la région Provence-Alpes-Corse-Côte d'Azur. Je porte une croix, signe de mon ministère. Cette croix, elle est transmise d'inspecteur ecclésiastique à inspecteur ecclésiastique depuis 1871. C'est dire tout le poids que je porte là. Et puis je porte aussi une étole. Elle est blanche parce que nous sommes dans le temps de Pâques. Cette étole n'est pas le signe de mon ordination au ministère pastoral. Elle est d'abord et avant tout le signe de mon baptême. Souvenez-vous, le Christ lui-même a dit « Celui qui croit en moi, qui me suit, portera mon joug, et mon joug sera facile à porter. » Ainsi, cette étole, mes amis, est le signe même du sacerdoce universel si cher à Martin Luther. Et je rêve que dans nos églises, de l'Église protestante unie de France, il y ait un vestiaire à l'entrée que chaque fidèle, en entrant dans l'Église pour le culte du dimanche, revête une étole comme moi. Ceci étant dit, écoutons la parole de notre Seigneur pour ce jour. Dans la première épître de Pierre apôtre, au chapitre 2, les versets 19 à 25. On va commencer même à 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes. Nous chanterons au cantique 202, au numéro 202, les trois strophes.
De ta part de nuit, de ma
Prions. Dieu notre Père, nous te louons pour la parole toujours nouvelle que tu nous adresses. Mets en nos cœurs ton esprit. Fais que la prédication de ta parole rende présent parmi nous ton Fils, Jésus le Christ, parole vivante pour les siècles des siècles. Vous avez été appelés parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous avez été appelés parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Le Christ, notre Seigneur nous a laissé donc un exemple. Lui, le bon berger, le seul berger, le pasteur, l'inspecteur ecclésiastique, le président de conseil régional, n'est pas le berger. Jésus, lui, le seul berger dont parle Jean, nous a guidés afin que nous suivions ses traces. C'est ce que nous pourrions appeler, mes amis, une parole simple qui peut ne pas nous émouvoir, au contraire de certaines paroles de l'Évangile qui peuvent nous bousculer, nous troubler. Les paroles de l'Évangile qui paraissent plus fortes, plus intenses, plus percutantes que celles-ci. Vous avez été appelés parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Je crois que cette parole est une parole que l'on peut écouter sans vraiment l'entendre. C'est une parole qui possède une mélodie harmonieuse à nos oreilles, un peu comme les musiques, vous savez, que l'on peut écouter dans les centres commerciaux. On finit par ne plus vraiment y faire attention. Et puis, c'est aussi un peu ce qui peut se passer pour nos fêtes religieuses. Noël, l'Épiphanie, Pâques, l'Ascension, Pentecôte. Elles rythment bien sûr nos existences, mais sans vraiment, vraiment les transformer. On peut même se dire chrétien, par habitude, ou même parfois pour se reposer. C'est simple. Je suis chrétien. Il n'y a pas à réfléchir. Oui, je suis chrétien. Le Christ est mon berger. Il me guide. J'ai confiance en lui. Je suis bien, très bien, dans le troupeau, avec les autres, au milieu des autres. Mais Ami, est-ce bien cela ce que le Seigneur a voulu ? Alors, si je pose la question, c'est que, bien sûr, cela n'est pas aussi évident que nous pourrions le penser. Et peut-être ai-je tort de vouloir remettre en question ma façon de vivre, la façon de vivre de mon Église, la façon de vivre de la chrétienté, tout simplement. Alors, je le crois, il me paraît important, nécessaire, utile, parfois de me secouer, de ne pas seulement recevoir la parole de Dieu comme ça, mais de prendre conscience de ce qu'elle va impliquer dans mon existence personnelle, intense, au plus profond de moi-même. Et voici, je crois que notre Seigneur lui-même nous réveille comme il vient de le faire. Vous avez été appelés afin que vous suiviez les traces du Christ. Vous avez été appelés afin que vous suiviez les traces du Christ. Suivre les traces du berger, c'est marcher là où il marche. S'arrêter quand il s'arrête. Suivre les routes qu'il décide de prendre. Là déjà peut s'installer le trouble dans nos esprits. En effet, il est possible que nous ne voulions pas marcher quand il marche, nous arrêter quand il s'arrête, et surtout, prendre certaines routes qu'il prend. Suivre ses traces, c'est aussi agir comme lui-même a agi. Ne dit-il pas que celui qui croit en lui accomplira les œuvres qu'il fait lui-même ? C'est aussi parler comme lui-même a parlé. Suivre ses traces, mes amis, ne serait-ce pas également annoncer l'Évangile comme lui-même l'a fait, contre vents et marées, et parfois au risque de sa propre sécurité. L'Évangile. Il est peut-être temps de nous rappeler ce qu'est cet Évangile, cette bonne nouvelle que Jésus, le Fils de Dieu, a proclamée aux hommes et aux femmes de son temps. L'Évangile. L'Évangile est la promesse du salut offert par Dieu à tous les êtres humains. Ce salut est signifié par la mort du Christ pour tous les hommes, afin de les libérer du péché et de la mort. Et le Christ ? Le Christ, faut-il le rappeler, n'est pas mort pour ceux qui étaient bons et justes. Il est mort pour tous les pécheurs. Et comme le dit l'apôtre Paul, il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Le Christ n'a pas attendu que nous soyons parfaits, justes, que nous ayons accompli de bonnes œuvres pour pouvoir mourir à notre place et pour nous conduire à une vie nouvelle. Et voici que nous sommes appelé à reconnaître quelque chose qui peut nous troubler. Christ est mort pour tous. Nous, les méchants. Il est mort pour le blanc. Il est mort pour le noir. Il est mort pour le jaune. Il est mort pour le rouge. Il n'est pas mort pour une race particulière. Et quand on se dit chrétien, il me paraît impossible d'être raciste et xénophobe. Il n'est pas mort non plus pour un peuple particulier, comme le nôtre par exemple. Il est mort pour tous sur la croix, pour nous tous sur la croix. Il est donc mort aussi Terrible nouvelle pour les dictateurs de tous les pays et de toutes les époques. Quand nous prenons conscience de cela, nous pouvons être portés dans la colère. Et je repense tout particulièrement à ma maman, juive, qui avait porté l'étoile jaune de David. Et qui me suivait dans mon cheminement, dans la foi. Et un jour, je lui disais que oui, Jésus était mort aussi pour Hitler. Et pour elle. Voilà une parole qui était terrible. Terrible. Comment ce barbare, comment cette bête immonde pouvait-il être accueilli aussi dans les bras ouverts du Christ? Mais le Christ est mort pour tous, y compris pour lui, y compris pour tous ses dictateurs. Oui, voilà une parole bien insoutenable et une parole que nous avons beaucoup de difficultés à accepter. Et si ce n'était qu'une parole? Mais il s'agit aussi d'un acte. Le Christ, en écartant ses bras sur la croix, a aussi accueilli, comme je le disais, tous les dictateurs de ce monde. C'est injuste, injuste à nos yeux. Mais que pouvons-nous y faire, mes amis? Pourrions-nous interdire à Dieu d'offrir son Fils pour tous les hommes? Pourrions-nous interdire au Christ de mourir pour certains? Si nous faisions cela, alors le sacrifice du Christ serait inutile pour l'humanité et il ne serait pas le salut du monde, de notre monde. Dieu nous conduit à voir par-delà les apparences. Notre foi doit éveiller nos consciences afin de remettre en question nos propres jugements, nos propres condamnations à l'égard de tel ou tel. Notre foi nous apprend que l'Évangile est l'amour de Dieu annoncé à tous les hommes et à toutes les femmes, et pas pour seulement quelques-uns. L'Évangile, c'est proclamer le pardon, même quand celui-ci paraît difficile à donner. C'est apporter, affirmer et construire la paix, alors que tout le monde dit la guerre. L'Évangile, c'est faire jaillir la vérité au milieu du mensonge, de la désinformation et de la manipulation des peuples. L'Évangile, c'est vivre la joie quand le monde pleure. C'est dire, attention, attention, ce n'est pas gagné quand tout le monde affirme le contraire. L'Évangile n'est pas la sagesse humaine, il n'est pas non plus règlement de la vie en société, il est libération, amour et paix. C'est ce que nous dirons, entre autres, pendant l'Assemblée générale de la Fédération luthérienne mondiale à Windhoek, capitale de la Namibie, du 10 au 16 mai, où notre Église, l'Église protestante unie de France, membre de la Fédération luthérienne mondiale, comme elle est membre aussi de la Communion mondiale des Églises réformées, notre Église sera donc représentée à Windhoek pour cette Assemblée générale de la Fédération luthérienne mondiale. Et elle sera représentée par le pasteur Claire Sixte Gatteuil, secrétaire national aux affaires internationales de notre Église, et puis par moi-même. Nous allons aborder le thème « Libéré par la grâce ». et libéré par la grâce qui sera définie par trois sous-thèmes. Le salut n'est pas à vendre, les êtres humains ne sont pas à vendre, la création n'est pas à vendre. Je vous invite, mes amis, à porter cette Assemblée générale de la Fédération Italienne Mondiale dans la prière, aujourd'hui, et tout particulièrement le dimanche 14 mai, dimanche prochain, car tous les délégués de cette Assemblée, c'est à peu près 300 délégués représentant le monde entier, les 145 églises membres de la Fédération Italienne Mondiale, et les 500 invités, et plus le peuple de Namibie qui sera présent. Nous allons fêter le 14 mai la célébration des 500 ans de la réforme. L'intérêt, la force, en tout cas, que nous voulons vivre aussi pendant cette Assemblée générale, c'est de dire que l'Évangile, la grâce que le Seigneur nous fait, a des implications dans ce monde, pour ce monde, et qu'on ne peut pas y faire n'importe quoi. Libérer par la grâce et suivre les traces du Christ. Parfois, nous pouvons avoir tendance à croire que l'Évangile serait conforme à notre pensée, à nos désirs et à nos affirmations. Alors que le Christ lui-même remet en cause l'idée que les hommes se font de Dieu. Le Christ lui-même remet en cause la nature de l'ordre établi. Lui, le chef, se fait le serviteur de tous. Il lave les pieds de ses disciples. Lui, le Dieu vivant, se fait clouer sur le bois de l'infamie. Et c'est ainsi, amis, qu'il nous remet aussi en cause nous-mêmes. Ne restons pas figés dans nos pensées, dans nos traditions, dans nos habitudes, dans nos raisonnements, dans ce qui semblerait être nos vérités. Mais sachons nous laisser transformer par le Christ lui-même. Sachons nous laisser bousculer par sa parole, par l'Évangile qu'il nous a adressé. L'apôtre Pierre nous rappelle que suivre les traces du Christ comporte certains risques. Il le rappelle à chaque baptisé. Il y a vous, Charles, tout particulièrement. À la communauté, à l'Église, qui est le corps du Christ au cœur du monde. Si nous suivons vraiment les traces du Christ, c'est au Golgotha, mes amis, que nous parviendrions. Nous ne pouvons pas faire comme si cela n'existait pas. Une Église qui chercherait à atteindre la gloire sans accepter la croix du Golgotha ne suivrait pas les traces de son Seigneur. Elle succomberait à la tentation que le Christ lui-même a subie sans y tomber, de gouverner les peuples et les nations. Et le Christ, je le crois, je l'affirme, souffre de cela. Nous n'avons pas assez entendu Jésus nous parler sur la route d'Emmaüs. Il a pourtant rappelé aux disciples qu'il fallait que le Christ souffrît pour entrer dans sa gloire. Nous devons donc prendre conscience des implications dans nos existences personnelles, communautaires, si nous suivons le Christ. Être prêt à poser un acte, à oser une parole dans ce monde et pour ce monde. Nous devons avoir le courage, je le crois, de risquer nos réputations, nos conforts, nos habitudes, nos principes, nos certitudes. Alors je vous l'accorde, c'est vrai, cela n'est pas facile. Cela peut même parfois être très difficile de se remettre en cause. Mais il n'est qu'à voir aussi les exemples que le Seigneur nous donne. Alors je vais citer comme ça quelques personnes, quelques figures emblématiques. Victor Jara, un poète, exécuté par le général dictateur et chrétien, Pinochet. Dietrich Bonhoeffer, exécuté pour avoir voulu détruire la bête immonde. Camilo Torres, prêtre, exécuté par le général dictateur et chrétien Videla. Steve Biko, en Afrique du Sud, qui malencontreusement est mort en tombant de sa chaise dans un commissariat de police, tout simplement parce qu'il réclamait la liberté au nom de Jésus-Christ à ses frères et à ses sœurs noirs, et tant d'autres encore. Suivre les pas et les traces du Seigneur, accomplir les œuvres qu'il fait, c'est une fois passé les ténèbres de la haine et du mépris, parvenir aussi à la résurrection. Ce que justement l'apôtre Pierre appelle la gloire. Ressusciter signifie alors vivre nouveau, être libéré de tout ce qui pouvait nous emprisonner. Ressusciter signifie combattre et lutter contre toutes les volontés de ceux qui voudraient construire des murs entre les êtres humains, entre les peuples. Parvenir à la résurrection, ce serait alors parvenir à porter nos regards au-delà de ce que nous voyons. Parvenir à remettre en question même ce qui nous paraît immuable. Ressusciter avec le Christ, c'est parvenir à la vraie liberté des enfants de Dieu que rien ne peut emprisonner. Liberté vécue pleinement et totalement dans l'amour. Ressusciter avec le Christ, c'est vivre cet amour pour l'autre et pour soi, où il nous est donné d'apprendre à recevoir autant que de donner. Et suivre les traces du Christ, c'est partir à l'aventure, sans savoir où cela pourra nous conduire, mais partir avec confiance, parce que notre berger, lui, sait ce dont nous avons besoin, et qu'il partage avec nous ce qu'il reçoit pleinement et totalement de son Père. C'est partir comme Abraham est parti, sans savoir où il allait, mais certain que son Seigneur le conduirait dans sa lumière et dans sa paix. Quelques semaines après Pâques, Dieu nous redresse, mes amis. Il nous remet debout, il nous ressuscite et il prend la tête de notre communauté. Il se met en marche. En marche. Bon. N'y voyez aucun appel. J'y peux rien, c'est dans la Bible. Hein. Il se met en marche et nous invite à le suivre. Soyons confiants. Suivons-le. Redressons-nous pour annoncer l'Évangile, accomplir les œuvres qu'il fait et proclamer l'unité et la fraternité de tous les êtres humains, parce que tous sont enfants d'un même Père. Vous avez été appelés par le Christ afin que vous suiviez ses traces. Amen. Nous chanterons à présent au cantique 289.
Vous pouvez prendre place pour le temps de quelques annonces. D'abord, un grand merci donc à Jean-Frédéric Patrinsky pour cette prédication, voilà, tout à fait inspirante, qui nous appelle donc à une vie cohérente, engagée, vibrante de foi et de service donc de ceux qui nous sont confiés. Merci beaucoup. On te réinvitera. Sans vouloir abuser des bonnes volontés des gens. Grand merci à Alexandre, qui est notre organiste, et puis à notre chef de chœur, voilà, qui est debout, et puis à vous tous qui êtes venus pour animer notre culte. Alors, le chœur de l'oratoire prépare activement son concert, qui est donc prévu, si je ne me trompe, fin juin, le 29 juin, avec du Mendelssohn. Donc, voilà, ça se passera ici même, donc on aura le temps de vous le rappeler. Alors vous avez entendu peut-être, il y a une nouvelle sono qui a été installée, nous avons déjà un peu entendu dimanche dernier, cet dimanche aussi, donc avec reconnaissance pour Jean-Luc Buisson, qui est donc le président de la commission travaux, enfin je veux dire avec Gaspard Durleman, avec Bénédicte Boissonnat, donc il a beaucoup travaillé ces temps-ci pour la restauration de ces deux chapelles, qui sont toutes belles, et puis de cette sono, mais c'est vrai que c'est encore en rodage, en réglage, cette sono, donc n'hésitez pas à lui faire passer, si vous avez bien entendu, si vous aimeriez plus fort, moins fort, différemment, je ne sais pas, peut-être aussi, c'est vos remerciements. si vous en aviez. À la sortie, il y a les éclaireuses, c'est le clan des goélands qui propose des gâteaux pour nous réjouir, mais aussi pour financer l'achat du matériel pour leur clan. En face, après le culte, il y a un repas de paroisse, donc aux 4 rues de l'Oratoire, un repas de paroisse. Donc hier, si vous avez vu sur Instagram, je ne sais pas si vous suivez ce réseau, il y a une photo avec toute une équipe de dames qui sont en train, qui ont passé l'après-midi entière en train de tailler des légumes pour faire des lasagnes, ou non pas des lasagnes, je crois que c'est un hachis parmentier de viande et de légumes. Donc enfin bref, je crois que c'est assez prometteur. Donc si on y va tous, je pense qu'il n'y aura pas tout à fait assez, mais je pense que normalement on se débrouille toujours pour partager ce qu'il y a, et c'est délicieux et très fraternel. Donc même si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez participer donc à ce repas de paroisse en face. Samedi, il y a le groupe de prières silencieuses, donc à 18h à la maison presbytérale en face. Samedi, on me fait passer aussi une annonce pour le christianisme social. Ils ont donc leur assemblée générale samedi prochain, mais de 18h à 20h, il y a une table ronde sur la théologie de la libération aujourd'hui. Alors si je l'annonce quand même, c'est qu'il y a notre ami Christal Vanel, qui est donc sociologue et qui est un de nos moniteurs de catéchisme, qui participera à cette table ronde. Mais c'est vrai que l'oratoire a toujours été volontairement progressiste au point de vue théologie, inspirant chacun donc dans sa recherche théologique personnelle, mais aussi sociale, c'est-à-dire encourageant cette ouverture au monde dans le service. Donc ça va bien avec ce qui nous est cher. Donc c'est samedi prochain, rue Titon. Si vous voulez des informations, vous le trouverez facilement sur Internet ou en me passant un petit mail, je vous ferai passer l'annonce. Alors dimanche prochain, il y a le culte, bien sûr, comme tous les dimanches que Dieu fait. J'espère qu'il en fera encore beaucoup. Et puis, vous le voyez, donc ce dimanche, il y a la communion, comme une fois par mois. Tous sont invités à s'approcher de la table du Seigneur, quelle que soit votre appartenance, votre non-appartenance, quels que soient vos doutes, votre foi, vos hésitations. Tous ceux qui entendent l'appel du Seigneur et qui désirent par ce geste répondre un oui à Dieu peuvent participer, prendre le pain, boire dans la coupe s'ils le désirent. Si vous ne désirez pas communier aujourd'hui, ce qui est tout à fait possible pour la raison qui vous appartienne, vous pouvez soit rester à vos places, soit eh bien, venir dans les cercles, dans le cercle, et puis passer le plat et la coupe à votre voisin. Car en effet, nous communions ici donc, par tablées successives pour qu'il y ait cette dimension humaine et fraternelle. Et ensuite, eh bien, nous aurons donc le temps de bénédiction. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Donc, que ce soit une louange à Dieu et un témoignage visible de notre reconnaissance pour tout ce que Christ nous a donné.
Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Ô notre Dieu, Père éternel et saint, il est vraiment digne et juste, c'est notre joie et notre salut, de te rendre grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur, pour la gloire de ta création et pour ton amour. C'est pourquoi, avec tous les chrétiens partout dans le monde, quelle que soit leur église, avec la grande nuée des témoins, en une commune joie, nous te rendons gloire. Saint, saint, saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa lumière. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Voici comment l'Évangile nous raconte le dernier repas que Jésus prit avec ses disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude pour le pardon des péchés ». Et Jésus ajoute cette promesse qui est pour chacune et chacun d'entre nous et qui se réalise par l'Esprit. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Nous prions Dieu. Ô Dieu de tendresse et de fidélité, nous voulons par notre geste nous souvenir de ce qu'a dit et de ce qu'a fait le Christ pour toute l'humanité. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en prenant ce pain et cette coupe, nous soyons en communion avec le Christ vivant, avec sa façon d'être, avec ses paroles et avec sa résurrection. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour attendrir nos cœurs, et nous permettre enfin de reconnaître que notre prochain est digne d'être respecté et servi. Alors maintenant, nous pensons devant toi, nous pensons grâce à toi, en vérité, à ceux que ton amour nous appelle à aimer et à servir nous-mêmes, de sorte que personne en ce monde ne soit oublié. Nous voulons penser à celles et à ceux qui, de l'humble citoyen jusqu'au plus puissant, sont appelés à faire face à leurs responsabilités dans le service de toutes. Et puis d'un même cœur, nous osons te prier comme notre Père commun à tous, avec ces mots que le Christ nous a confiés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi », confirmant ainsi cette parole de l'apôtre que Christ est mort, est venu pour les péchés, pour les pécheurs dont nous sommes tous des membres. C'est donc sans crainte aucune, mais avec confiance et espérance que chacune et chacun, tel qu'il est, peut entrer en communion avec Dieu et participer à ce repas en signe de ce mouvement vers lui. Venez, dit Jésus-Christ, venez, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous.
La coupe pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de Jésus le Christ, le sang de la nouvelle alliance, qui a été répandu pour nous.
Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur. Les liens de la mort m'avaient enserré, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel, je crie à mon Dieu. De sa demeure, il entend ma voix et son cri parvient à ses oreilles. Et la paix de Dieu qui surpasse tout gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez en paix dans la grâce de notre Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes. C'est toi qui guéris toutes nos infirmités. C'est toi qui arraches notre vie à la tombe. C'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. Oui, je bénirai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Et nous recevons maintenant la bénédiction qui nous est donnée directement, personnellement, au singulier de la part de Dieu, pour que nous portions aussi cette bénédiction à nos frères, à nos sœurs. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Béni sois-tu, ô Dieu, source de toute vie.